Notre nouveau Premier ministre donne un peu le sentiment d'être sur Radio Courtoisie.
Il existe même des radios d'opinion, comme Radio Courtoisie.
Vous avez fait ensemble la matinale de Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Et oui, bonjour chers amis, bienvenue dans Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, où aujourd'hui, avec toute l'équipe, on est que trois en fait, voilà, il y a Maëlys, il y a Arnaud et il y a moi, parce que les autres sont malades, les autres sont en déplacement, les autres vont bientôt revenir, mais ne sont pas encore revenus. Nous allons vous présenter l'actualité, et l'actualité, c'est d'abord Monsieur Olivier Lhinvite, qui nous parlera de la manière dont les socialistes en Espagne sont à la peine. La foule espagnole s'est levée dans des dizaines de villes pour réclamer le départ de Pedro Sanchez. Va-t-il réussir à rester? On ne sait pas. Déjà, il a changé de ton vis-à-vis du Maroc. Ensuite, Véronique Le Floch nous parlera du procès de Bertrand Ventot, le président de la coordination rurale qui, lorsqu'il avait appelé à faire la peau aux écolos, n'était encore que le président de la coordination rurale du Gers. Et enfin, avec Philippe Murer, nous parlerons de cet excellent sondage qui explique qu'en fait, les Français veulent quitter l'Union européenne, en tout cas, sont prêts à le faire. Le Frexit a dépassé les 50% dans les enquêtes d'opinion qui ne sont pas réalisées en France, mystère et boule de gomme. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous, c'est pour toute la matinée, c'est jusqu'à 10h, et nous commençons avec l'actualité avec Maëlys Clauzel. Bonjour Maëlys.
Bonjour Richard et bonjour à tous nos auditeurs. Alors le canon français contre-attaque. Le tribunal correctionnel de Tours juge le canon français contre Radio France et deux députés LFI, Marie Messmer et Mathilde Igné, pour diffamation suite à des accusations de salut nazi et de chant à la gloire de Bardella lors des banquets organisés. Des accusations lancées à l'automne 2025 par une pétition anonyme militante, jamais vérifiée et relayée sans recul par le site Ici Centre Val-de-Loire, ainsi que par les deux élus insoumises sur Instagram. Un non-événement monté en épingle par une poignée de militants d'extrême gauche, puis repris en cœur par des journalistes qui n'ont jamais pris la peine de vérifier la source. Marie Messmer dénonce une procédure bâillon et appelle même à un rassemblement de soutien à Tours. Un comble venant de ceux qui ont participé à relayer des accusations aussi graves que non fondées, sans jamais s'excuser ni se rétracter. Malgré cette tentative de sabotage médiatique, le canon français continue d'afficher complet, preuve que les Français, eux, ne se laissent pas intimider par les procès de tous qui célèbrent la culture française populaire. Écoutons l'avocat de la Société du Canon Français au tribunal de Tours.
Aucun des trois prévenus n'a été capable de rapporter la preuve de ce qu'ils avançaient, à savoir il y a des saluts nazis qui sont commis dans les banquets du canon français. Et c'est ça qui est un vrai soulagement, une vraie victoire pour nous, quel que soit le résultat, parce que ceux qui nous accusaient des pires mots, de façon un peu décomplexée et sans nuance, ont dit devant les juges que mes clients n'étaient ni responsables, ni des soutiens de propos et de comportements dont de toute façon personne n'a été capable d'établir la preuve.
Voilà. Et rappelons évidemment que quand LFI parle de procédure bâillon, c'est-à-dire on essaierait d'empêcher LFI de parler, c'est gaguesque. En parlant de Radio France, Charles Sapin est maintenu.
Et oui, la direction de Radio France a refusé ce jeudi de retirer de l'antenne le journaliste Charles Sapin, directeur adjoint de Valeurs Actuelles, à qui France Inter avait confié une chronique dominicale. Malgré une motion votée à l'unanimité par plus de 400 salariés exigeant son retrait et une menace de préavis de grève brandie par l'intersyndicale. Un épisode qui en dit long sur l'état d'esprit de la rédaction du service public, incapable de tolérer une seule voix de droite dans un panel d'éditorialistes pourtant passé par le pluralisme et prêt à faire grève pour l'en empêcher. Vincent Meslet a eu le mérite de rappeler une évidence trop souvent oubliée à Radio France. Le procès fait à Sapin repose sur des intentions supposées, non sur des faits, puisque ce dernier a fait l'essentiel de sa carrière au Parisien, au Figaro et au Point, sans le moindre récit litigieux. Une fermeté bienvenue à contre-courant des reculades habituelles de l'audiovisuel public. Face aux pressions internes, reste à voir si la direction tiendra vraiment jusqu'au bout. Dans une maison où le pluralisme semble à sens unique dès qu'il s'agit d'accueillir une plume qui ne pense pas comme la majorité de la rédaction.
Et à Ceuta, il y a presque un cas par jour d'agression sexuelle depuis cette invasion du 30-31 juillet.
Bah oui, il faudrait croire, puisque la procureure de Ceuta, Sylvia Rojas, tire la sonnette d'alarme puisque depuis l'arrivée des milliers de migrants dans cette enclave espagnole, les agressions sexuelles ont connu une augmentation exponentielle. Plusieurs dizaines de plaintes ont été déposées depuis le début de la crise fin juillet, presque un cas par jour, et la magistrate elle-même reconnaît que ce chiffre ne reflète probablement qu'une infime partie de la réalité, tant les victimes, souvent des migrantes mineures, n'osent pas porter plainte. La ville submergée par 1400 à 1600 mineurs, alors qu'elle ne peut théoriquement en accueillir qu'une trentaine, voit ses services de protection de l'enfance, sa santé et son éducation totalement débordés. Face à cette situation hors de contrôle, ce sont les habitants eux-mêmes qui s'organisent, transformant un terrain de football en campement de fortune pour protéger les femmes et les jeunes filles des agressions nocturnes. Encore un parfait exemple de ce que produit une immigration incontrôlée, car aucune frontière ne vient la réguler.
Le Var lance une plateforme pour suivre où va l'argent public.
Oui, bonne nouvelle pour la préfecture du Var qui vient de lancer Suivi Subvention, une plateforme inédite en France qui trace commune par commune et projet par projet toutes les subventions accordées par l'État dans le département depuis 2018, soit 271,3 millions d'euros répartis en 1575 projets. Une initiative bienvenue et suffisamment rare pour être saluée quand on sait à quel point l'opacité règne d'ordinaire sur l'utilisation de l'argent public en France. Reste que cette transparence n'existe pour l'instant que dans un seul département, sur la seule initiative locale d'une préfecture, sans qu'aucune généralisation nationale ne soit annoncée. On aimerait qu'un tel outil devienne la norme partout en France, plutôt que l'exception qui confirme la règle d'un État où le contribuable a le plus grand mal à savoir précisément où passent ses impôts.
Et, excellente nouvelle, effectivement. Et un petit mot de sport ?
Oui, le match Nice-Le Mans de samedi soir qui se déroulera à l'Alliance Riviera sera l'occasion pour le club niçois de rendre hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016, notamment avec un maillot spécial de nombreuses commémorations. En amont du coup d'envoi, une cérémonie de recueillement sera organisée sur la pelouse. L'ensemble des familles et des proches des victimes ont été invités.
Alors, et quel temps va-t-il faire aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, le ciel reste très nuageux avec quelques brunes sur les côtes de la Manche et le Nord-Pas-de-Calais. Sur le reste du pays, le soleil s'impose avec des températures estivales. Nous attendons pour les maximales de 20 à 37 degrés du nord au sud, avec notamment 20 à Cherbourg, 28 à Paris, 32 à Limoges et jusqu'à 37 à Toulouse. Et nous célébrons ce 4 septembre Saint-Marcel, évêque et martyr des premiers siècles du christianisme. Saint-Marcel est honoré dans plusieurs régions d'Europe, où son culte s'est transmis au fil des siècles. Il est patron des horticulteurs et des palefreniers.
Et voilà, et bien bonne fête à tous les palefreniers. Merci beaucoup Maëlys.
Ligne droite.
Et je passe la parole à Maëlys pour son décryptage.
Et oui Richard, c'est encore moi. Alors vous le savez chers auditeurs, c'est actuellement la panique dans les bureaux de la Maison Ronde. Pour rappel, un journaliste de droite a réussi à y entrer. Et pas seulement pour prendre un cocktail payé par le contribuable. Non, non, le directeur adjoint de Valeurs Actuelles, Charles Sapin, dispose de deux pauvres minutes 30 de chronique politique le dimanche matin sur France Inter. Il n'en a pas fallu plus pour provoquer un tollé en interne. Les syndicats de Radio France ont déposé un préavis de grève pour dimanche 13 et lundi 14 septembre afin de protester contre son maintien. 2 minutes 30 de droite, 2 jours de grève. Heureusement qu'on ne lui a pas confié la matinale. Ils auraient probablement bloqué la Maison Ronde jusqu'à Pâques. Mais laissons les chocolats de Pâques et allons tout de suite au plus savoureux. Cette soudaine allergie au journalisme engagé semble particulièrement sélective. Car Salomé Sacquet, venue de Blast, un média très 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 engagé à gauche, rejoint elle aussi France Inter. Et là, miracle, guérison immédiate, l'allergie se dilue soudainement. Pas de motion, pas de préavis, pas de grève. Même tranquillité pour Manon Bril, nouvelle chroniqueuse de France Inter, qui avait pourtant signé en 2024 une tribune appelant explicitement à voter contre l'extrême droite et pour le nouveau Front Populaire. Et pour sa première chronique dans Franche Culture, Manon Bril s'intéresse notamment à Drag Race, qui n'est autre qu'une émission de télé-réalité où 10 drag queens s'affrontent dans des épreuves démontrant leur charisme, leur singularité, leur culot et leur talent pour devenir la prochaine drague superstar. Ça donne envie, on a trouvé comment occuper notre week-end. Mais sur France Inter, figurez-vous qu'il ne plaisante pas, puisque cette brillante nouvelle chroniqueuse entend présenter le programme comme une émission d'utilité publique, pour expliquer aux enfants queer qu'ils ne sont pas seuls, mais aussi à leurs parents et à leurs familles qu'ils ont leur place dans la société. Là, aucun grand débat sur les fameuses valeurs du service public. Puisque nos gauchistes intolérants ne nous déçoivent jamais, vous vous en doutez, le cas Charles Sapin n'arrive pas de nulle part. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, a confié à Europe 1 hier sa propre expérience. Je cite, « La CGT de Radio France a interpellé la direction en disant que mon invitation était absolument scandaleuse et qu'il ne fallait pas m'inviter. Même pas question de lui donner une chronique, elle était simplement invitée. À ce rythme-là, bientôt, pour entrer à la maison ronde, il faudra sûrement demander un visa gauchisme assuré. Voilà donc le deux poids, deux mesures. D'un côté, des personnalités marquées à gauche peuvent intégrer l'antenne sans provoquer de révolution interne. Et de l'autre, on a Charles Sapin qui déclenche une mobilisation alors qu'aucune faute précise commise dans sa chronique n'est mise en avant pour justifier son éviction. Dans leur motion, les salariés expliquent notamment que Valeurs Actuelles ne seraient pas compatibles avec les valeurs humanistes, démocratiques et républicaines des radios, du service public. Mais depuis quand les syndicats de Radio France, payés par nos impôts une fois de plus, délivrent-ils les certificats de compatibilité idéologique avant de laisser quelqu'un approcher un micro ? Et surtout, cette affaire tombe au pire moment possible pour Radio France. Parce que quelques mois plus tôt, l'Assemblée nationale a justement passé l'audiovisuel public au scanner. La commission d'enquête sur sa neutralité, son fonctionnement et son financement, dont Charles Alloncle était rapporteur, s'est achevée le 27 avril dernier. Et les documents officiels de l'Assemblée nationale recensent 64 réunions jusqu'à l'examen du rapport. Autrement dit, pendant des mois, parlementaires, dirigeants, journalistes et régulateurs ont débattu précisément de l'impartialité et du fonctionnement de l'audiovisuel public. Et puisque l'on parle de service public, parlons aussi de ce qu'il coûte. Selon la commission des finances de l'Assemblée nationale, Radio France a reçu 652,1 millions d'euros de crédits publics en loi de finances initiale pour 2025. Le projet initial prévoyait même 666,2 millions et pour l'ensemble de l'audiovisuel public, ce sont 3,949 milliards d'euros de crédits en 2025. Donc près de 4 milliards et à ce tarif-là, on pourrait peut-être avoir le pluralisme compris dans le forfait. Ça me semble pas déconnant comme on dit. Et ces 652 millions d'euros versés à Radio France ne viennent pas uniquement des Français qui pensent comme les salariés les plus remontés de la Maison Ronde. C'est précisément tout le problème. Les Français de gauche financent Radio France, mais les Français de droite aussi. Les lecteurs de Blast, comme ceux de Valeurs Actuelles, quand tout le monde paie, il paraît assez raisonnable que le service public ne fonctionne pas comme un club privé avec sélection idéologique à l'entrée. D'autant plus qu'il existe un autre chiffre, encore plus embarrassant. En juin dernier, l'Arcom a mis Radio France en demeure pour une sous-représentation du Rassemblement National en journée sur France Inter et France Info. Et là, les proportions sont assez spectaculaires. En janvier et mars, près de 60% du temps de parole accordé au RN sur France Inter était diffusé entre minuit et 5h59 du matin. Sur France Info, c'était plus de 70%. Tout ça pour laisser des pitres déconstruits à l'antenne du matin pour des chroniques toujours plus grotesques qui appellent à faire retentir le chant des partisans dans les rues au rythme que le RN gagne du terrain pour 2027. En tout cas, l'Arcom ne s'est pas contenté d'une petite remarque. Le régulateur a révélé qu'en journée, entre 6h et 23h59, seulement environ 9% des interventions politiques du RN sur France Inter étaient diffusées et 9,5% sur France Info. L'autorité a donc prononcé une mise en demeure, dernier échelon, avant une éventuelle sanction financière en cas de nouveau manquement. Elle rappelait surtout une exigence particulière du service public en raison de son devoir d'exemplarité et d'impartialité. On le voit, ils ont vachement obéi. Puisque la gauche est abonnée au courage fuyant, Radio France s'était dédouanée et avait alors expliqué ce déséquilibre par un problème technique lié à son outil de suivi des temps de parole. Très bien, mais pas de bol, deux rappels à ses obligations avaient déjà eu lieu auparavant, en octobre 2025 puis en février 2026. À ce rythme, l'excuse du hamster mort pourrait être bientôt plus crédible que le problème technique. Et comme cette histoire manquait encore un petit peu de sel, eh bien Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien aux salariés, forcément, en déclarant sur son compte X qu'il défend l'honneur du service public. Un responsable politique qui se veut démocratique soutient donc une mobilisation destinée à obtenir le retrait d'un journaliste issu d'un média politiquement opposé à son camp. Le tout au nom de la défense du service public. Évidemment, il n'a rien dit pour saquer, on est étonné. En clair, cette affaire arrive presque comme le service après-vente de la commission à l'oncle. Des mois d'enquête sur la neutralité, près de 4 milliards d'euros de crédit public pour l'ensemble de l'audiovisuel public en 2025, 652 millions pour Radio France, une mise en demeure de l'Arcom pour sous-représentation du RN en journée, et quelques mois plus tard, un préavis de grève contre un journaliste de Valeurs Actuelles. Charles Sapin n'aura donc même pas eu besoin de 3 minutes pour faire tomber les masques. Et si le pluralisme devient insupportable dès qu'il commence à 2 minutes 30, le problème n'est peut-être pas Charles Sapin, le problème c'est peut-être qu'à force de vivre entre gens qui pensent pareil, la contradiction finit par ressembler à une agression.
Excellente formule, merci beaucoup Maëlys.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Olivier Lainvite.
Bonjour monsieur.
Alors, vous avez une qualité rare par rapport à la plupart des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous habitez en Espagne depuis 10 ans et donc vous êtes aux premières loges pour nous raconter la manière dont la rue s'est animée contre Pedro Sanchez.
Alors effectivement, et c'est je crois un sujet très intéressant à mettre sur la table, c'était une magnifique manifestation, si je puis me permettre. Donc vous l'avez dit, moi donc j'habite à Madrid, et donc le 2 septembre a été convoquée une manifestation donc par rapport, je crois que votre collègue l'a mentionné à l'instant, à ce qu'il se passe à Ceuta. Alors, elle a été convoquée, je ne sais pas si cela a été trop dit en France. Le 2 septembre est une journée particulière parce que c'est la journée de Ceuta. Je ne sais pas si vous êtes trop au courant sur le fait qu'en Espagne, chaque ville a en fait sa journée. C'est souvent lié soit à l'histoire de la ville ou au patron de la ville. Et donc le 2 septembre, c'est la journée de Ceuta, donc c'est tombé mercredi. Donc cela a été très suivi, je crois que vous avez vu les images. Absolument magnifique à Madrid. Hein. Vous aviez la place de Cibeles qui était faite de drapeaux espagnols en rouge et en jaune. Et donc c'était un bel événement. Alors moi, à titre personnel, j'étais sur place. Effectivement, vous avez raison, c'était une manifestation contestataire contre Pedro Sanchez, la manière dont il a réagi, et peut-être nous pourrons en parler. Je souligne également le côté très unité du peuple espagnol face à ce qu'il se passe à Ceuta. Il y avait là une véritable démonstration du peuple qui voulait montrer au peuple aussi directement qu'il était présent et qu'il était derrière lui. C'était assez familial d'ailleurs, hein. On y allait avec les enfants et les grands-parents.
Cette manifestation donc, a été organisée dans des dizaines de villes espagnoles et pas juste à Madrid. Qui sont les partis qui organisaient cette manifestation?
Alors, initialement, tout a commencé, il me semble, avec la visite de la présidente de la Fédération espagnole des municipalités et provinces. Oui, je crois que la traduction est bonne, c'est le FMEP. Donc la dame s'appelle María José García Pelayo, c'est la maire de la ville de Jerez. Pour vous donner une idée, le FMEP, c'est l'équivalent de l'Association des maires de France. Donc María José García Pelayo est plutôt du côté PP. Elle s'est rendue sur place.
Quand vous dites PP, je pense que vous ne parlez pas d'un grand-père, vous parlez d'un parti politique espagnol.
Tout à fait. Le PP, bon, c'est à peu près l'équivalent, si on le fait à la louche, des Républicains chez nous. Donc droite, on va dire, modérée. Et donc ça a été bien évidemment suivi par l'ensemble de l'opposition de Pedro Sanchez. Donc surtout donc ce PP, le parti, et ensuite nous avions également Vox. Vox, c'est à peu près l'équivalent de ce qui pourrait être le RN chez nous, en France. Voilà.
Donc il y a une espèce d'union des droites qui s'est réalisée avec aussi donc cette présidente de l'équivalent de l'Association des maires de France. Et donc on sent que c'est l'Espagne du terrain, l'Espagne où le peuple vit dans les rues et dans ses maisons, qui n'a qu'une peur, c'est que ce qui s'est passé à Ceuta se passe à grande échelle sur l'ensemble du territoire espagnol.
Complètement. C'est véritablement un laboratoire, Ceuta. Les masses sont importantes. C'est à peu près l'équivalent de la ville de Pau. C'est 80 000 habitants, Pau ou Béziers en France. Et donc on se souvient des chiffres de personnes qui ont essayé de traverser cette frontière, c'est à peu près 80 000 personnes, donc c'est l'équivalent. Donc on se retrouve face à une masse incontrôlable, absolument, la ville est restée d'ailleurs chaotique, hein, même avec les 5 000 ou 10 000 migrants qui resteraient selon les dernières estimations, la ville est de toute façon incontrôlable, c'est une zone de non-droit. Et donc devant le fait accompli, on a une droite, et je crois un bon sens populaire, qui est venu dire à chacun, eh bien écoutez, je crois qu'il est temps de faire front pour éviter que cela se réplique, et pour faire face à donc Pedro Sanchez et à sa politique.
Alors, Pedro Sanchez donc, a commencé par expliquer évidemment que c'était inqualifiable. 70 000 à 80 000 migrants ont pénétré à Ceuta le 30-31 juillet. 60 à 70 000 ont été renvoyés chez eux très rapidement. Donc là, malgré tout, une action intéressante de la part du gouvernement espagnol qui n'a pas voulu accepter ça, mais avec une justice qui a expliqué que les mineurs, évidemment, eux, ne pouvaient pas être envoyés chez eux, et donc qui a installé à Ceuta les conditions d'une insécurité maximale.
Tout à fait, exactement. Et donc ce point-là était, je crois, clair. Et durant tout le mois d'août, en fait, nous avons eu sur la télévision espagnole plusieurs interviews, plusieurs émissions qui ont eu lieu pour essayer de donner à voir, de montrer ce qui véritablement se passait à Ceuta. Et j'ai en tête environ 6, 7 entretiens où vous avez donc des journalistes venus de Madrid avec leur caméra et leur micro, avec une véritable idée en tête, c'était de poser le grand débat finalement qui anime peut-être les sociétés occidentales aujourd'hui, qui est le suivant, est-ce que nous ne devrions pas sacrifier un petit peu de notre confort face à la misère humaine qui se présente devant nous? Et quand ils ont allumé les caméras, ils ont ouvert les micros, et qu'ils ont commencé à interviewer les gens de Ceuta, ils se sont retrouvés face à des gens qui étaient à bout de souffle, qui véritablement n'en pouvaient plus. Bord de la crise de nerfs, des gens qui fondent en larmes, des mères qui sont apeurées pour leurs enfants, c'est absolument, absolument horrible. Je parlais des agressions sexuelles tout à l'heure, il y en a deux recensées, au moins une par jour. Bon, je ne vous parle pas de la réalité qui est probablement bien au-dessus. Donc tout le mois d'août, en fait, a été un
En nous
meurtre.
disant que la réalité est tout dessus, vous ne faites que répéter les propos de la procureure de Ceuta. Donc,
Voilà, non, exactement, non, non, exactement, ce sont des choses qui sont dites, et même par les habitants eux-mêmes. Qui ont été interviewés, tout à fait.
Alors, dans cette histoire, un nouveau fait débarque. On a commencé par expliquer que c'était la faute du Maroc, et puis en fait, non, ce n'était pas le Maroc, c'était Israël et les États-Unis qui essayaient de fermer le détroit de Gibraltar après avoir contrôlé, je plaisante, le détroit d'Ormuz. Et peu à peu, malgré tout, il semble se dessiner une espèce de coupable négligence de la part du gouvernement marocain, puisque le Centre national de l'immigration et des frontières, donc une institution espagnole,
Oui.
a produit un rapport que le média El Espagnol a révélé justement le 2 septembre, jour des manifestations, où ils expliquaient on avait pu observer une très grande permissivité de la part des policiers marocains, de l'aveu même d'ailleurs des immigrants, qui expliquaient d'une part qu'il y avait moins de policiers marocains que d'habitude pour leur permettre, pour empêcher le passage, et d'autre part que certains policiers leur avaient même indiqué comment contourner les barrières, et donc comment passer par la mer.
Effectivement. Je crois que le terme qui est utilisé, même dans le rapport, si je ne me trompe pas, qui a été retransmis par El País hier matin, c'est ils ont été guidés. Je crois que le mot de guider apparaît dans le rapport. Alors c'est étonnant, c'est là où en fait on voit que les gens, peut-être, et notamment Pedro Sanchez, jouent sur les mots parce que la première chose qu'il a dit lorsqu'il est intervenu hier matin au Congrès, était de rappeler que nous n'avons pas de preuves que effectivement le Maroc était directement impliqué sur le passage forcé donc de tous ces migrants. Donc c'est un peu étonnant parce que comme vous le dites, il y a un rapport des autorités qui, photo à l'appui, me semble prouverait qu'au moins il y a eu une certaine permissivité. Et quand même, quand on songe au fait que le Maroc est un pays qui souhaite accueillir la Coupe du Monde en 2030, partenariat avec l'Espagne et le Portugal, au fait est. Je pense que c'est un pays qui devrait avoir la capacité de voir ou de prévoir ou de comprendre comment est-ce que 80 000 personnes pourraient se regrouper en 24 heures sur une frontière. Mais bon, ça, c'est qu'une supposition.
Alors, les manifestants, évidemment, exprimaient leur colère vis-à-vis de ce qui s'est passé à Ceuta, mais d'une manière plus large, ils ont évidemment appelé à ce que Pedro Sanchez soit sanctionné, puisque Pedro Sanchez, socialiste, est un fervent partisan de l'immigration, et là, les gens tenaient avec Ceuta l'exemple même de ce que l'immigration est capable de produire.
Exactement. Je pense que les gens l'ont scandé plusieurs fois, hein, ce propos sorti de Pedro Sanchez. Si l'on en croit le discours qu'il a tenu hier, je ne pense pas que ce soit dans l'idée. Lui, bien sûr, il veut tenir bon sur sa position. Donc, je pense que vos auditeurs sauront que l'année prochaine, nous avons également des échéances électorales ici avec élection du Premier ministre. Et il a laissé entendre, il me semble, à date du 31 août, dans un entretien de je ne sais plus quel journal, qu'il était disposé à se représenter. Donc, lui, de son côté, il tient bon, si je puis dire.
Alors, il tient bon, mais normalement, on avait évoqué avant les manifestations le possible dépôt d'une motion de censure.
Oui, alors là-dessus, c'est vrai que je crois que c'est quelque chose sur lequel, nous parlions tout à l'heure de l'union des droites, sur lequel PP et Vox sont probablement en train de travailler. Là-dessus, je n'ai pas assez d'informations sur ce qui pourrait être décidé, mais c'est quelque chose qui va nécessairement rapprocher les deux droites à l'horizon de 2027.
Alors, cette motion de censure, pour qu'elle réussisse, il faudrait bien sûr qu'il y ait les voix de PP et de Vox, mais aussi, en fait, d'autres voix. Pour le moment, la coalition gouvernementale espagnole, comme on le rappelait cette semaine sur cette antenne, ne tient que parce que il y a une alliance, en fait, des partis indépendantistes, des différents partis indépendantistes des différentes provinces espagnoles, avec le Parti socialiste, qui négocie, en fait, son maintien en place en abandonnant, en fait, régulièrement des parcelles de souveraineté à ces partis indépendantistes, un peu comme Sébastien Lecornu abandonne au PS des lambeaux de sa politique économique.
Tout à fait, exactement. Et donc c'est sur ce point qu'il faudra probablement suivre l'actualité espagnole, puisque en fait, les partis indépendantistes, avec le système de suffrage que nous avons en Espagne, ont un poids considérable, surtout la Catalogne et le Pays Basque. Donc là encore, j'ai bien peur qu'on s'en remette à ces partis, qui sont minoritaires si on prend l'ensemble de la population espagnole, bien sûr.
L'immigration a été présentée par Pedro Sanchez comme étant évidemment une chance pour l'Espagne, une nécessité sur les emplois en tension. C'est le même vocabulaire en fait en France et en Espagne et dans tous les pays immigrationnistes. Alors, et une fois de plus, ça ne dépend pas de la gauche en tant que telle, puisque on sait que les pays du Nord, même ceux dominante progressiste, voire socialiste, sont capables de mettre en place des politiques anti-immigration tout à fait efficaces, et donc sans parler de métiers en tension, ni quoi ni qu'est-ce. La population espagnole, avant Ceuta et après Ceuta, a-t-elle changé d'avis sur l'immigration? Est-ce qu'il y a, comme en France, une espèce de consensus anti-immigration que les partis au pouvoir refusent d'entendre?
Pour vous donner une idée... Alors, je pense que dans l'ensemble, la population est assez marquée contre l'immigration, notamment parce que l'Espagne, en réalité, bon, sans parler de la longue histoire qu'on a tous en tête, c'est quand même un pays qui a été occupé pendant 700 ans, mais tout récemment, on se rend compte qu'il y a une hausse qui est proportionnelle, donc tout ce qui peut être agression, violence, qui est proportionnelle à l'augmentation de l'immigration. Donc, l'Espagne aussi voit ce qui se passe chez ses voisins. L'immigration ici est quand même plus légère par rapport à la France, mais ils ont des images qui leur arrivent de France, qui leur arrivent d'Allemagne, qui leur arrivent d'Angleterre. Donc, ils sentent quand même la chose monter. Ce qui s'est passé probablement avec Ceuta, c'est que la partie de la population qui était peut-être sans avis ou qui ne suivait pas ce sujet particulièrement s'est rendu compte à quel point il y avait ici une menace, puisqu'ils ont vu leurs compatriotes directement affectés à Ceuta, et c'est peut-être ça qui a fortement pesé, en fait, c'est ce côté laboratoire dont nous parlions tout à l'heure.
Olivier l'invite, en 10 ans de présence sur le sol espagnol, avez-vous vu, vous, une évolution de l'opinion publique? Vous avez vu, évidemment, l'émergence du parti Vox. Avez-vous l'impression que le parti anti-immigration, si j'ose dire, qui traverse, en fait, différents partis politiques, est en train de progresser nettement?
Très nettement. Très nettement, c'est un sujet qu'en fait, le peuple espagnol n'est pas un peuple très politisé par rapport au peuple français. Très rarement, à table, si je puis me permettre, les sujets de politique vont être évoqués. Donc, on élude assez facilement ces thèmes. De plus en plus, l'Espagne s'en rend compte, les Espagnols s'en rendent compte. Moi, donc, habitant à Madrid, je ne suis pas très loin d'un quartier qui s'appelle le quartier Lavapiés, qui est en fait le quartier où se concentrent majoritairement donc les nouveaux arrivants, les migrants à Madrid. Je peux vous dire que mes voisins ont changé d'opinion au cours de ces 10 dernières années, sans aucun doute.
Et à votre avis, c'est une dernière question, quelle va être la prochaine action de Pedro Sanchez d'un point de vue politique, c'est-à-dire la motion de censure, évidemment, faire en sorte qu'elle soit rejetée, l'immigration annoncée qu'il va mettre la pédale douce?
Alors, il a été assez étonnant, cela a été dit hier au Congrès, mais il souhaiterait amener le roi ou demander au roi de se déplacer sur la ville de Ceuta, ça, c'est quelque chose de très fort politiquement. Donc il faut savoir que Felipe VI, le roi actuel, ne s'est jamais rendu à Ceuta. Je crois que le dernier roi à s'être rendu sur place, c'était son père en 2007, si je ne me trompe pas. Et donc Pedro Sanchez a essayé de regagner l'opinion publique, si je puis me permettre, en appelant le roi à se déplacer et en indiquant de cette manière qu'il y a un total investissement de l'État derrière le peuple Ceuti. Donc je crois que c'est définitivement redorer son image et essayer de montrer son investissement total et son soutien à la population de Ceuta pour essayer de voilà, redorer un petit peu son image politique.
Et voilà, le recours au roi comme solution politique, ça me paraît tout à fait intéressant. Merci beaucoup Olivier d'Invite.
Ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 7h30 précisément. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'ailleurs aussi de nous aider à soutenir Radio Courtoisie et à faire en sorte que cette radio qui est votre voix puisse être entendue toujours plus. Comment fait-on, Arnaud ?
Eh bien, pour nous faire des dons en ligne, rendez-vous sur soutenir.rc.fr ou bien encore, vous pouvez envoyer vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. On compte sur vous. Merci beaucoup.
Voilà, et tout à l'heure, nous recevrons dans 10 minutes Véronique Lefloc pour parler du syndicalisme paysan et de la manière dont la justice le traite. Mais tout de suite, la chronique d'Alexis Poulain.
Ligne droite.
Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors, je crois que vous vouliez nous parler de drones.
Ah ben de drone, oui, du drone de Leipzig, ce drone chargé d'explosifs qui n'a pas explosé dans un aéroport qui est stratégique hein, pour l'approvisionnement de l'Ukraine. Et après la découverte de ce drone, c'était le 7 août, le gouvernement allemand a mis plusieurs semaines pour attribuer cette attaque hybride à la Russie, sans en apporter aujourd'hui les preuves. D'ailleurs, la presse allemande se pose des questions, mais ce n'est pas le cas des dirigeants européens qui sont vent debout derrière Friedrich Merz et qui accuse la Russie de cette guerre hybride. D'ailleurs, ça va très vite puisque l'Allemagne a fermé la maison russe à Berlin et la Russie a immédiatement fermé l'Institut Goethe à Moscou. L'idée, c'est de finir de fermer les relations diplomatiques entre les pays. Mais quand on regarde les déclarations des responsables européens, de Mark Rutte, patron de l'OTAN, des chefs d'État qui sont dans l'Union européenne, on se rend compte qu'ils disent tous la même chose, comme s'ils récitaient en fait un papier qui leur avait été donné, c'est-à-dire que nous sommes tous derrière l'Allemagne et tous encore plus assurés de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout dans ce conflit contre la Russie. Mais il n'y a pas de déclenchement de l'article 4 de l'OTAN qui imposerait de soutenir un pays, l'Allemagne en l'occurrence, membre de l'Alliance. L'Allemagne non plus n'a pas déclenché quoi que ce soit, si ce n'est cette vague de campagne, une campagne de presse qui permet de remettre dans les esprits, à quelques jours des élections en Saxe, eh bien, la peur du russe et la peur de l'ingérence étrangère, évidemment. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'en Saxe, c'est l'AfD, ce parti dit d'extrême droite en Allemagne, qui est loin devant et qui fait peur à la coalition de Friedrich Merz, bien en deçà d'Emmanuel Macron en termes de soutien de sa population. Il est autour de 14-15%, le chancelier allemand. C'est à peu près la même configuration qu'en France. Alors, que reste-t-il à nos chers world leaders ? Eh bien, simplement, la menace russe pour souder la population, la peur de la guerre aussi. On a vu ce film, ou du moins la bande-annonce de ce film, Jupiter, qui sera au Festival de Venise et qui parle d'un président français enfermé dans le PC Jupiter et confronté au dilemme d'envoyer ou non une bombe nucléaire pour répondre à une attaque russe. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce, c'est assez drôle de voir que le président français explique que dorénavant, la dissuasion nucléaire française sera offerte à l'Ukraine. On est dans la propagande pur jus, une propagande qui dure depuis plusieurs années maintenant, avec son pendant, la censure, évidemment, interdiction de territoire pour Xenia Fedorova, l'ancienne patronne de RT France, interdiction aussi pour les chaînes russes de diffuser en Europe, et interdiction aussi pour certaines personnes, comme Jacques Beau ou d'autres, de vivre normalement, puisqu'ils sont sous fatwa européenne. On est vraiment dans un moment particulier où, encore une fois, la presse ne fait pas vraiment son travail critique. Elle reprend simplement les communiqués de presse, les déclarations des gouvernants pour jouer ce jeu de la propagande. On connaît où ça va, on l'a vu pour la guerre en Irak. On a connu d'autres mensonges d'Ursula von der Leyen, notamment son avion qui avait été brouillé par les Russes, c'était un mensonge, sans compter bien sûr les contrats Pfizer, mais ça c'est autre chose. Et autre mensonge d'Emmanuel Macron, tenez, peut-on faire confiance à nos dirigeants? C'est la question en fait qui est derrière ce drone de Leipzig. Vous savez qu'Emmanuel Macron avait annoncé un parc Dragon Ball Z hein, pour clore ses deux mandats, parc d'attractions financé par l'Arabie Saoudite. Eh bien, Toei Animation, qui est l'entreprise qui a les licences Dragon Ball Z, annonce qu'il n'en est pas vraiment question et qu'elle n'a jamais vendu sa licence pour un parc à thème en France.
Voilà, tout à fait, ça a débarqué. C'était un article du Figaro, entre autres, qui expliquait que tous les visuels qui avaient été complaisamment répandus par l'Élysée venaient en fait du parc d'attractions installé en Arabie Saoudite et pas du tout du projet français. Alors, ça ne veut pas dire que rien ne se fera, mais on sent quand même qu'on nous a un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et d'ailleurs, au moment où ça avait été révélé, on s'était tous étranglés de rage. Et puis, certains esprits racistes nous avaient dit « Mais non, mon gars, regarde bien, la seule chose qui a été véritablement signée entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salam, c'est un protocole en vue de discuter d'une possible réalisation. Autrement dit, on a juste ouvert des discussions sans que rien ne soit véritablement acté.
Oui, comme les rafales d'ailleurs, les 100 rafales qui avaient été promis à Zelensky il y a de ça un an, quelque chose comme ça, c'était simplement du déclaratif, encore une fois. Et c'est souvent qu'il faut faire attention. Et dans l'affaire du drone de Leipzig, il est question, là encore, de déclaratif. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent, parce que nous sommes dans un monde où la propagande a pris le dessus, évidemment, et où il y a une volonté des dirigeants européens de manipuler, d'utiliser l'ingérence russe, qui est réelle hein, et qui existe, comme toutes les ingérences en réalité, pour faire capoter les élections, ou du moins essayer de contrôler un maximum les élections. Et il y a celle en Allemagne, bien sûr, en Saxe, mais l'élection qui angoisse tous les gens qui sont au pouvoir actuellement, c'est celle de 2027 en France, où il va être bien difficile pour les tenants du parti d'Emmanuel Macron d'assumer le bilan d'Emmanuel Macron et de se présenter devant les Français.
Même si, effectivement, on a l'impression que les Français ont la mémoire très courte. Alexis, j'aimerais revenir avec vous sur ce que vous avez dit tout au début de cette excellente chronique. C'est le fait que la presse allemande se pose des questions sur ce drone. Parce que quand on lit la presse française, il n'y a aucune question posée. Dire le drone est russe, c'est acté, et donc on a droit maintenant à du commentaire de second degré sur ce que ça signifie. Ouais. Donc la presse allemande a l'air d'être... sinon plus honnête, du moins un peu plus soupçonneuse. On a l'impression que la presse allemande considère que quand Friedrich Merz parle, ça vaut ce que vaut la parole d'Emmanuel Macron, et donc ils enquêtent.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le Berliner Zeitung qui explique qu'il s'agit simplement de déclarations du chancelier qui n'a pas apporté de preuves autres que celle de dire « vous inquiétez pas, on a les preuves » et ce sont les Russes. Donc, n'importe quel journaliste le sait, il faut recouper les sources. Si la source, c'est simplement le chancelier allemand, c'est faible.
Ouais. À côté de ça, donc, on a effectivement l'idée de ces ingérences russes. Ce film Jupiter, donc alors le PC Jupiter, c'est le PC qui est installé sous l'Elysée et qui permet de commander l'apocalypse nucléaire française. on le dit en riant, mais parce que effectivement le fait d'imaginer Emmanuel Macron en train de d'assaisonner nucléairement le monde entier nous arrache des rires nerveux. On sent que il est capable de tout en fait, pourvu que ça lui permette de se donner une grande stature. Il y a en ce moment l'idée des ingérences étrangères, l'idée des ingérences intérieures, les tweets absolument ahurissants de Nathalie Loiseau qui passe son temps à essayer de planter ses vieux crocs dans le mollet du Rassemblement National en expliquant qu'ils sont vendus aux Russes. Avez-vous l'impression que le bloc central est désespéré ?
Oui, le Bloc central est désespéré. Il suffit de voir d'ailleurs l'équipe de campagne de Gabriel Attal pour comprendre l'ampleur de cette désespérance. Il n'a pas de ministre. Il essaye d'avoir une équipe, de montrer qu'il y a des gens de la société civile. Son excuse, c'est de dire « je ne ferai pas une troisième saison du macronisme ». C'est faux, il l'est absolument. Celui qui veut faire, par contre, la troisième saison du macronisme et qui l'assume, c'est Édouard Philippe. Et son challenge, c'est d'essayer de ratisser à droite pour avoir autre chose que des macronistes à proposer en 2027. Parce que ça ne marchera pas, et ils le savent. Et d'ailleurs, que ce soit Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ce sont deux candidats Bilderberg, je les appelle comme ça, parce qu'ils sont allés plusieurs fois au Bilderberg, ce rendez-vous des puissants atlantistes, et c'est la première fois qu'on a deux candidats issus du cercle Bilderberg de la même année, quasiment, qui sont proposés, et qui sont si bas dans les sondages, parce que d'habitude, ça marche plutôt bien, ce casting, et ça permet d'avoir des gens quasiment assurés de gagner, en quelque sorte. Là, on est vraiment loin du compte, et ils le savent, et d'ailleurs, on sent cette panique avec l'agitation des ingérences russes, avec aussi l'idée qu'il faut oublier totalement le bilan parce que c'est la faute de tous les Français et pas seulement la faute d'Emmanuel Macron ou de Bruno Le Maire, qui passe son temps à dire en plateau d'ailleurs que ce n'est pas sa faute, que ce soit l'état de la dette, la faillite réelle de l'économie, mais en Allemagne, c'est une économie en faillite également et c'est le cas de Friedrich Merz aussi. Et donc ces gens-là ne veulent pas assumer leur bilan parce qu'ils ne le peuvent pas physiquement devant les électeurs. C'est quelque chose d'impossible. Donc, il faut trouver une arnaque. Et l'arnaque, c'est de remplacer les personnes et c'est de faire croire que ceux qui sont responsables du désastre vont apporter les solutions. Personne ne peut croire ça. Et ils sont conscients que même si la manipulation peut fonctionner sur une partie d'esprit faible, la grande majorité des Français veut les voir quitter la scène du pouvoir en 2027.
Alors, et cette majorité de Français... On espère évidemment qu'elle va pouvoir voir ses vœux exaucés, quel que soit le résultat, d'une certaine manière, même si, évidemment, à Radio Courtoisie, entre Mélenchon et Le Pen, je pense que le choix est assez vite fait.
Mélenchon, bien sûr.
Voilà, merci Alexis d'être notre caution de la diversité et de la pluralité. Il y a en ce moment une espèce de moment démocratique tout à fait surprenant où le Rassemblement national a quasiment le droit de mener une campagne normale, c'est-à-dire on parle de son programme économique, on parle de ses propositions sociales, on n'est pas en train de le gifler à coups de Waffen-SS.
Pas encore. Attendez, vous savez comment ça fonctionne. Marine Le Pen a toujours eu bonne presse jusqu'au second tour. Généralement, jusqu'au premier tour, ça se passe plutôt bien. On l'écoute, on peut respecter ses idées, les débattre. Elle a des problèmes, des déboires avec les banques, toujours. Elle a toujours ses accusations, évidemment, d'ingérence, de proximité avec la Russie. Il y a quand même, bien sûr, toujours ces accusations qui reviennent. Enfin, c'est d'ailleurs stratégiquement étonnant de commencer déjà avec le débat sur le voile, alors qu'on voit qu'on sortait du débat avec le MEDEF sur l'économie. Je pense qu'il faut appuyer sur l'économie du pays pour parler à un maximum de Français. Mais à partir du second tour, ça y est, Marine Le Pen se transforme peu à peu en Adolf Hitler. Et c'est systématique et c'est à peu près tout le temps.
Parfait. Bon, écoutez, Alexis Poulain, voilà, on verra comment accompagner ces quelques mois, puisque on est très près, en fait, de l'issue. On verra comment accompagner ces quelques mois de campagne présidentielle. Merci et à la semaine prochaine.
Merci. Merci, au revoir.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et bonjour, Véronique Le Floch.
Bonjour Richard.
Alors, vous êtes l'ancienne présidente de la coordination rurale et l'année dernière, celui qui à l'époque n'était que le président de la coordination rurale du Gers, mais c'est déjà énorme, Bertrand Ventot, avait expliqué, je cite, « Les écolos, la décroissance, veulent nous crever, nous devons leur faire la peau ». Et évidemment, c'est une manière de parler à ses troupes. Faire la peau des écolos ne signifie pas aller chercher chaque écologiste pour le mettre contre le mur de la grange et lui planter une fourche. Mais néanmoins, les écologistes, qui sont des gens pointilleux, ont décidé de porter plainte pour provocation publique et directe non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Et Bertrand Ventot était jugé hier à Auch.
Alors déjà, Bertrand Ventot, juste préciser qu'il est le président de la Chambre d'agriculture, non pas de la Vienne, mais du Gers, mais de la Haute-Vienne.
La Haute-Vienne, pardon. Mais
oui. Donc qui parmi nous n'a pas dit tout haut ce qu'il pense tout bas? C'est aussi ce que veulent entendre des agriculteurs. Une grande partie des agriculteurs sont fatigués par toutes ces pressions liées à l'écologie et qui ne sont pas toujours justifiées. L'écologie, on l'a fait, l'écologie, c'est notre quotidien. Donc, est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce que c'est ça qui doit prendre tout le temps de nos tribunaux? On était quand même dans un département, le Gers, qui a fait parler de lui il n'y a pas longtemps encore, avec la petite Liana. Et quand on voit que ce genre d'affaires va pouvoir être traité de façon, on va dire, assez rapide, alors même que d'autres affaires auraient dû être jugées et sévèrement jugées, je trouve qu'on dépense beaucoup d'argent public pour des affaires qui ne sont pas prioritaires. La priorité des agriculteurs, c'est de pouvoir sauver leur peau déjà, sauver leur peau face à cette sécheresse, face à ces problèmes de trésorerie, face à ces politiques grandissantes qui font que demain, il n'y aura plus rien dans nos assiettes. Oui, on marche sur la tête pour reprendre un slogan qui est aujourd'hui connu, mais non, mais on croit rêver, on inverse les rôles, les boucs émissaires, c'est pas eux, c'est nous, c'est qui est-ce qui on entrave dans son métier, c'est bien nous. Jamais on a eu envie d'abîmer notre environnement, au contraire, c'est notre outil de travail.
Alors, le procureur de la République a réclamé plusieurs dizaines de millions d'euros d'amende, milliers d'euros d'amende, à l'encontre de Bertrand Venteau. Donc, on est un peu surpris. Après tout, c'est un syndicaliste qui exprime, lors d'une réunion syndicale, un point de vue d'une manière vigoureuse. Ce n'est pas non plus comme si la CGT ou la CFDT, Sophie Binet, encore expliquait à quel point le patronat allait tous nous faire crever et que c'était à cause du capitalisme et des patrons qu'on allait avoir 50 degrés en France, surtout si on laissait le Rassemblement national être élu. Donc, voilà. Donc on sent que l'outrance fait partie des habitudes du syndicalisme. Et là, le fait que ce soit un syndicaliste, Bruce n'a l'air d'avoir aucun intérêt aux yeux de la justice et il est jugé comme un prévenu normal.
Oui, tout à fait. Et puis, Bertrand Venteau n'a attaqué aucune personne nominativement. On voit aussi, comme vous l'avez dit, Sophie Binet qui a de tels propos, des propos semblables. On voit aussi Sandrine Rousseau, pour prendre quelqu'un de l'écologie, qui appelle tous les citoyens à affronter les chasseurs.
Physiquement, à affronter physiquement les chasseurs.
Physiquement, tout à fait.
On la cite.
Donc je pense qu'il faut arrêter. Tout ce qui est de niveau là, de cours d'école, de règlement de compte, doit cesser. Les priorités de la France, et la France n'en a plus les moyens. On ne peut pas juger différemment ou traiter différemment une catégorie, notamment un syndicat. Est-ce que c'est la coordination rurale qui est visée? Est-ce que c'est notre profession qui est de trop et qu'on veut finalement abolir? Non, est-ce que finalement ces écologistes ne se rendent pas compte que l'effet final sera l'effet inverse de ce qu'ils attendent, puisque au lieu d'avoir des produits qui seront produits en France par nous agriculteurs, eh bien on aura demain plus d'importations, plus de pollution liée à tous les moyens de transport, plus d'accords de libre-échange parce que on n'aura plus à manger dans nos assiettes, parce que on aura écœuré tous les agriculteurs, on les aura éloignés de leur métier qui était de produire pour les emmener vers un métier de bureau. Franchement, je ne sais pas si à un moment ils réfléchissent aux conséquences, ou alors c'est du court terme et c'est se faire plaisir dans l'attaque.
Par rapport à toutes ces attaques, par rapport à ce péril dans lequel est le monde agricole, et évidemment la sécheresse et la canicule de cette année n'ont fait que renforcer cette urgence et cette détresse, le monde n'est pas trop fort, on a l'impression que le gouvernement commence un peu à changer de pied, notamment avec la loi sur l'eau telle qu'elle a été votée le 14 août.
Alors, c'est toujours trop tard. Pourtant, on dit ce n'est jamais trop tard, mais pourquoi seulement maintenant, alors que on a parlé d'eau, dès 2023, Emmanuel Macron annonçait un plan eau, les agriculteurs en faisaient partie. Début 2024, après nos premières grandes manifestations, notre montée sur Paris, Gabriel Attal annonçait aider une centaine de réserves d'eau, une centaines en avaient répondu « Pourquoi pas autant que nécessaire pour retenir l'eau, la stocker, toute cette eau de l'hiver qui finit à la mer ?» Ensuite, on a eu encore Annie Jeunebar qui est intervenue dans les Pyrénées-Orientales en octobre 2025 pour dire « On va mettre 50 millions d'euros pour faire des réserves pour 3 départements. » Et finalement, on a élargi à 18 départements. Et là, on se rend compte que toute la France est à feu, toute la France est rouge, et on parle, on concrétise quelque chose. Mais tout ça, c'est bien la cause de certains, la faute à certains, qui voyaient une agriculture sans eau, alors qu'on sait tous que le GIEC, qui est ce groupe d'experts ou dit experts par rapport au changement climatique, écrivait déjà dans un rapport en 2014, qu'il allait falloir stocker de l'eau, comme d'autres pays savent très bien le faire, et les retenues collinaires, tous ces modes étaient cités. Et l'année suivante, c'est le ministère de l'Agriculture, dans un rapport du Conseil général à l'agriculture et à la protection des espaces ruraux, qui l'écrivait aussi. Donc, enfin, mais tous ces ouvrages auraient déjà dû être prêts. L'eau aurait dû être stockée, on aurait dû pouvoir orienter cette eau soit vers les pompiers pour les aider, soit vers nos cultures, soit pour toutes les utilités. On est vraiment dans l'intérêt général, et l'intérêt général, c'est d'aider tout le monde. Donc voilà, on avait pris du retard, on espère qu'on pourra au moins être prêt pour l'année prochaine si une nouvelle canicule survient. On espère qu'on pourra être prêt pour stocker l'eau qui pourrait aller inonder des villes cet hiver. Si on arrive à aller vite, on peut encore espérer anticiper. Mais bon, on va voir la lenteur ou la rapidité avec laquelle les ouvrages pourront démarrer.
Parce que là, pour le moment, donc, il y a cette loi d'urgence agricole qui a été votée le 14 août, mais ensuite, ce n'est pas parce que la loi prévoit qu'on peut avoir des retenues d'eau et que maintenant on a la permission de stocker l'eau et d'utiliser des barrages multi-usages, ce n'est pas pour autant que l'administration accorde en fait ces autorisations. Il y a un article dans le Valeurs Actuelles cette semaine, « Guerre de l'eau, les agriculteurs en passe de gagner la bataille », où, par exemple, Sylvain Gonda explique un dossier administratif pour demander la création d'une retenue d'eau, c'est un coût de 3 500 € au minimum sans aucune garantie sur l'issue qui lui est donnée. Donc, en fait, il y a les paroles gouvernementales, vous en avez cité plusieurs, jusqu'à l'été 2026, ça ne servait à rien. Il y a ensuite les lois qui sont votées et il y a enfin l'administration, et on a l'impression que l'administration, elle, continue à freiner des quatre fers et qu'elle reste, en fait, sur le vieux logiciel influencé par l'écologie où l'eau doit être laissée, doit ruisseler tranquillement. Il y a 500 milliards de mètres cubes d'eau par an qui tombent en France et on a l'impression que l'eau doit être libre et que les agriculteurs n'ont absolument pas le droit d'établir un quelconque barrage pour retenir 0,5% de cette eau-là.
Alors, 500 milliards de mètres cubes qui tombent, mais des agriculteurs qui n'en prélèvent, je parle de prélèvement, je ne parle pas de consommation, qui n'en prélèvent que 3 milliards. Quoi. La collectivité, c'est 6 milliards d'eau prélevée, sachant que le ministère de la Transition écologique, table ou cite entre 10 et 70% de pertes au niveau de nos réseaux d'eau. Donc là aussi, c'est un levier pour agir. Mais non, les décrets devraient être déjà sortis. On devrait être prêt à faire ces dossiers. Mais l'agriculture, c'est comme l'hôpital. Bientôt, c'est 33% aussi d'administratif. À la différence que nous, l'administratif, il vit correctement. Et nous, les agriculteurs, on nous demande de participer à ce volet administratif, mais sans aucun retour. C'est pour nous, c'est prendre de notre temps, le temps qui devrait être consacré à soigner nos animaux et à produire. Donc, c'est pas gagné, mais j'espère que la ministre, elle a bien compris et que tout à l'heure, dans ses annonces qu'elle va faire à 9h, elle pourra dire on va aller vite et on fera en sorte de sauver tout le monde. Sauver tout le monde, je dis bien, ne pas oublier tous les agriculteurs qui sont aujourd'hui lancer dans des procédures collectives de plans de redressement ou autres, parce que si on lit bien les textes, tous ces agriculteurs sont exclus. À croire qu'en France, on a trop d'agriculteurs, alors que on sait qu'on en avait perdu 100 000 entre 2010 et 2020, on en a perdu 50 000 les trois années qui ont suivi, et là, on a, selon un sondage réalisé dans les Deux-Sèvres et les Charentes, de mémoire, 64% des agriculteurs qui ont déclaré être prêts à arrêter. Non, mais vous vous imaginez, là, les écolos peuvent être contents. Parce que c'est dans cette zone, les Deux-Sèvres, la Charente, que justement, on a créé quelques réserves. Et c'est là, à Sainte-Soline et à côté, que justement, ça a entraîné tous ces soulèvements pour dire, ah non, eh ben, vous aviez juste envie de dire à ces personnes-là, mais vous allez vous nourrir de quoi ? D'importations ? De cailloux ? De feuilles dans les arbres ? Parce que s'il y a encore quelque chose de vert, c'est à peu près nos arbres. Mais entre-temps, c'est juste irresponsable, surtout de la part de politiques et de la part de consommateurs qui finalement croient en ces discours qui sont peut-être beaux comme ça à entendre, mais c'est de l'idéologie et à un moment, faut être rattrapé par le raisonnable et se dire que tout ce qui a pu être fait par nos anciens dans le passé, où ils stockaient de l'eau, où justement tout était bien calculé pour avoir une année à la banque, une année dans le champ et une année sous le hangar. Là, pourquoi l'agriculture va si mal ? C'est parce que on nous a vidé tous nos portefeuilles, on est étranglés, et la corde, elle nous tient juste, on tire dessus, on est mort.
Véronique Le Floch, la coordination rurale a connu de véritables succès dans les élections, dans les chambres d'agriculture. Sous votre égide et sous celle de votre successeur, il y a une visibilité de ce syndicat qui n'avait jamais eu lieu avant. Avez-vous le sentiment que c'est la coordination rurale qui a permis de faire évoluer le ministère de l'Agriculture et d'une manière plus générale, le monde politique sur tous ces sujets ?
Bien sûr, bien sûr. Tous les projets réalisés, notamment celui du lac de Caussade, qui a valu un procès, qui traîne toujours auprès du président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, donc Bousquet-Cassagne, et son vice-président ou premier vice-président, donc Patrice Franquin, avec des amendes colossales. À un moment, il était question de détruire le lac, alors que l'on voit bien que ce lac a joué sa fonction. Les rivières ou la rivière attenante, elle n'est pas à sec, alors que si vous regardez Sévins, eh bien vous avez justement tout ce qui s'ensuit, tout qui est à sec. Et c'est là la démonstration même que ce type d'ouvrage a lieu d'être, n'agit pas négativement sur l'environnement, sur l'écologie, mais au contraire, il l'entretient et il entretient tout le périmètre. Donc, c'est un exemple à prendre en compte aujourd'hui. Et FNE et toutes les organisations environnementales qui ont attaqué la Chambre d'agriculture qui est à l'origine de cet ouvrage doivent aujourd'hui avouer qu'elles avaient tort et qu'on doit dupliquer multiplier ce même type d'ouvrage.
Alors FNE, donc c'est France Nature Environnement, donc qui a attaqué l'ensemble de ces ouvrages. Ce sont eux aussi qui se sont portés partie civile contre Bertrand Venteau. D'ailleurs, ils ont été accueillis avec quelques œufs, sinon les gens de FNE, du moins en tout cas les écologistes qui venaient au tribunal. Bertrand Venteau, d'ailleurs, n'en a pas fini avec ses ennuis judiciaires, parce que là, c'est les propos qu'il a tenus en novembre 2025 qui étaient jugés à Auch. Bientôt, il y a les propos qu'il a tenus en janvier 2026 qui seront jugés. En fait, il nous reste juste 20 secondes. Pensez-vous que ces offensives judiciaires vont continuer ou que les écologistes vont lever le pied ?
Eh bien, écoutez, s'ils agissent comme ils ont agi cet été pour venir aider à éteindre les feux, on ne devrait plus trop les entendre. Et ça, c'est la logique. L'écologie, ce n'est pas une politique. L'écologie, c'est une science. Elle n'est ni de droite ni de gauche. Et il faut laisser ceux qui la maîtrisent la faire.
Ben, parfait. Merci mille fois, Véronique Le Floch. Et nous souhaitons évidemment à la coordination rurale et à Bertrand Venteau la meilleure issue pour son procès.
Ligne droite avec Richard de Sèze.
Et voilà, dans un instant, Pascal Pointu nous parlera lui aussi du monde paysan. Et enfin, je recevrai bien sûr Philippe Murer pour parler du sentiment anti-européen qui devient majoritaire en France. Mais tout de suite, un rappel des titres avec Maëlys Clausel. Il est 7h59 et 23 secondes.
Le canon français contre-attaque. Radio France et les députés LFI Marie Messmer et Mathilde Igné sont jugés aujourd'hui à Tours pour diffamation après avoir relayé des accusations de salut nazi lors de ses banquets, partie d'une pétition militante anonyme. Marie Messmer crie à la procédure Bayon, mais le canon français, lui, continue d'afficher complet. Et la direction de Radio France refuse de retirer Charles Sapin de l'antenne de France Inter. Plus de 400 salariés réclamaient le départ du directeur adjoint de Valeurs Actuelles. La grève est désormais prévue les 13 et 14 septembre. À France Inter, une voix de droite aura donc suffi à mettre la rédaction en grève. Le pluralisme a de beaux jours devant lui. Et une bonne initiative, dans le Var, la préfecture lance Suivi Subvention, une plateforme qui permet de savoir combien d'argent l'État verse à chaque commune et surtout pour financer quel projet. Une transparence bien trop rare qui mérite d'être saluée. Vivement que ce projet se répande partout en France. Et nous célébrons ce 4 septembre Saint-Marcel, évêque et martyr des premiers siècles du christianisme. Saint-Marcel est honoré dans plusieurs régions d'Europe où son culte s'est transmis au fil des siècles. Il est patron des horticulteurs et des palefreniers.
Et nous souhaitons donc la meilleure des fêtes à tous les députés macroniens.
Ligne droite.
Bonjour Pascal Pointu.
Alors, bonjour Richard.
Alors, aujourd'hui, donc, de quoi nous parlez-vous ?
Alors, je vais vous parler du RDUE. Est-ce que vous savez ce que c'est que le RDUE ?
Mais non, pas du tout.
Alors, ça, c'est encore une dernière fantaisie de Madame von der Leyen. Le RDUE, c'est le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts. Cela s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui importent, exportent, produisent, transforment ou commercialisent des produits spécifiques dans l'Union européenne. Donc, si vous voulez, c'est d'empêcher la commercialisation des matières premières issues des terres déboisées après décembre 2020. Et c'est fait pour protéger la biodiversité et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Jusque-là, Je peux encore entendre. Le problème, c'est qu'il y a des produits concernés. Et dans ces produits concernés, vous retrouvez les bovins, viande et cuir. Ce qui fait que, en quelque sorte, l'agriculteur français qui, aujourd'hui, fait des coupe-feu dans les Landes, dans la Gironde, dans le sud-ouest, dans le sud-est, pour éviter les incendies meurtriers que l'on a connus. Donc, il va déforester. Il va remplacer ces terres, une fois que tout sera nettoyé, arraché, et ainsi de suite. Il va les remplacer par des pâtures qui ralentiront le feu et qui empêcheront le feu de passer. Et il mettra, bien entendu, dans ces prés pâturés, il mettra des bovins. Ce qui fait que, implicitement, il ne pourra pas vendre les bovins qui auront pâturé après une déforestation. Donc, nous sommes tombés encore sur la tête. Donc, vous avez, par exemple, des CERFA. Alors là, le CERFA, vous savez, c'est le Graal de la bureaucratie française, de l'inutilité politique française. Donc, vous avez le CERFA, 13632 étoile 10 et 13632 étoile 12, qui sont prévus lorsqu'il y a des coupes de bois qu'il y a à faire, la déforestation donc. Donc ces CERFA-là stipulent que vous ne pouvez pas vendre les bovins qui auront pâturé sur cette parcelle défrichée, remise en herbe, selon cette loi scélérate. Donc voilà où nous en sommes arrivés. Ils feront quoi de leurs bêtes, puisque ni la vente, ni l'exportation, et c'est repris en gras sur le CERFA. C'est-à-dire que vous êtes obligé, lorsque vous défrichez une parcelle, lorsque vous allez abattre des arbres, vous êtes obligé de cocher cette case. Sans ça, vous ne pourrez pas défricher, enlever des arbres, scier des arbres, protéger les habitations, protéger les entreprises contre les incendies, parce que Madame von der Leyen, avant d'être la patronne de l'Union européenne, était une ministre allemande, et il est évident que nous sommes rentrés dans une guerre frontale de la paysannerie française, qui est un modèle familial, agricole, contre un modèle qui se veut aujourd'hui intensif de l'agriculture allemande. Et comme l'agriculture allemande n'est pas visée vraiment par les coupes de bois, par les incendies de forêt et ainsi de suite, donc nous aurons encore une fois une pénalité qui va être mise sur la tête des agriculteurs français, et nous ne pourrons pas lutter convenablement, équitablement, face déjà à nos propres pseudo, entre guillemets, amis de l'Union européenne. Donc vous voyez bien que au bout d'un moment, alors cette loi va être effective le 30 décembre 2026. Personne n'en a parlé jusqu'à présent. Je vous en fais la nouvelle, mais Madame Genevard, ministre de l'Agriculture, est-ce qu'elle est montée au créneau pour l'expliquer? Non. Alors, nous avons un coupe-feu, entre guillemets, brésilien, venant de l'Union européenne, qui nous dit que la viande de bœuf brésilienne ne pourra pas être vendue dans l'Union européenne. Alors, c'est comme le poulet ukrainien, si vous voulez, hein, que l'on sait impropre à la consommation, mais qui, par un tour de magie, se retrouve poulet polonais, et que là, par contre, c'est exactement le même poulet ukrainien. On lui a fait passer la petite frontière, et maintenant, il est propre pour la consommation, pour les fast-food qui fleurissent en veux-tu, en voilà, sur le poulet, sur le territoire français. Donc, on bouffe du poulet à la Javel, on bouffe du poulet de merde, hein, faut le dire comme il est, hein. Et là, le bœuf brésilien qu'on nous dit qu'on est en train d'interdire, il va se retrouver sous une appellation de bœuf paraguayen ou de bœuf, je ne sais trop, argentin ou peu importe, puisque le Mercosur va nous l'imposer. Et là encore, on ne dit rien. Vous avez des éleveurs français qui sont à la ramasse la plus totale, qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à se payer, et on leur met des lois sur des lois, des normes sur des normes. Et là, je vous dis, le CERFA 13-632-10 et 13-632-12, eh ben, si vous voulez être un agriculteur consciencieux, respectueux des lois françaises et européennes, eh ben, je ne sais même pas ce que vous allez pouvoir faire de vos bovins, puisque de toute façon, l'Union européenne a décidé qu'il ne pourra pas être vendu, qu'il ne pourra pas être exporté. Et donc, je voudrais savoir si on va faire une garderie pour les bovins qui seront placés sous la loi RDUE.
J'aime beaucoup votre idée de garderie de bovins, et on imagine effectivement pouvoir recycler Gabriel Attal et Édouard Philippe et tous ceux qui auront perdu l'élection de 2027 en bouvier, en train de s'occuper sur ces friches de ces troupeaux inutiles. Indépendamment de la chose plaisante, cette RDUE, évidemment, c'est un règlement européen qui, selon ceux qui s'occupent de loi en France, est obligée de s'appliquer en France. En fait, on a toujours l'impression que les Français, au lieu de voir ce qu'ils peuvent faire, n'hésitent jamais à surtransposer les directives européennes et n'hésitent jamais à appliquer de la manière la plus étroite possible et la plus exacte possible des règlements qui, en fait, sont, par d'autres pays, interprétés plus largement.
Oui, alors Richard, vous savez, nous avons un président qui n'a jamais parlé de souveraineté nationale, qui ne parle que de souveraineté européenne. Alors, ce qui est un pléonasme, parce qu'une souveraineté ne peut être que nationale. Hein, on prend le terme comme on a envie, mais une souveraineté ne peut être que nationale. Mais quand on voit que M. Macron ne défend jamais, mais jamais, l'agriculture française, on nous fait des grands slogans, des grands titres, exception culturelle, exception de l'agriculture française, machin, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour défendre nos paysans jusqu'à aujourd'hui? Absolument rien. Et est-ce que Mme Genevard, qui est pourtant proche des LR, enfin qui a été foutue dehors des LR, suspendue du moins, est-ce que Mme Genevard est montée au créneau pour dire « arrêtez un peu, cette loi ne nous concerne pas, on n'a pas envie de forêt à protéger, on a aussi des entreprises à faire vivre, des geeks, des paysans qui doivent vivre. Alors, si on prend la solution d'abattre des arbres pour protéger des maisons et pour éviter des drames tels que l'on les a connus pendant cet été-là, Eh bien, écoutez, à un moment ou à un autre, je ne veux pas entendre parler de RDUE. Qui réfère un paysan français dans un règlement européen, alors que lui, il élève son bétail, il respecte en tout point. L'agriculture française est une exception à elle-même. Il n'y a même pas besoin de le dire pour le savoir, puisque c'est un système familial. 75 à 80% des fermes sont un système familial. Donc, nous sommes vertueux. Donc, pourquoi aller nous emmerder avec vos clauses ?
Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Pointu. Et à la semaine prochaine pour une autre tranche de bonne défense de la paysannerie. Et tout de suite, je reçois Philippe Murer.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite.
Bonjour Philippe Murer.
Bonjour.
Alors,
et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, vous êtes cofondateur du mouvement politique citoyen, dont on voit le logo derrière vous. C'est un mouvement qui essaie de réunir ceux qui ont envie de relever la France. Vous avez attiré mon attention cette semaine sur un sondage très intéressant qui est paru notamment sur le site youpinions.eu, un jeu de mots entre les opinions et EU, l'Union européenne, qui met en avant en fait plusieurs résultats qui prouvent que non seulement les Français croient de moins en moins en l'Europe et ont de moins en moins envie que l'Europe s'élargisse, etc. C'est une mine ce site, mais surtout qu'ils sont désormais plus de 50% à désirer sortir de l'Europe.
Oui, vous avez raison, c'est un sondage complètement historique en fait, et qui est un sondage très sérieux, qui est fait sur plus de 2000 Français, et par la Fondation Bertelsmann, qui est pro-Union européenne. Donc en fait, les chiffres sont sérieux. Ils ne diraient pas que 54% des Français veulent le Frexit si ce n'était pas le cas. Et donc, en cas de référendum, qu'est-ce que vous voteriez, dit-il, pose la question ce sondage, et 54% des Français disent « nous voterons pour sortir de l'Union européenne ». Et c'est pas un seul sondage, en plus c'est plusieurs, puisque c'est une série de sondages tous les trois mois, donc c'est important. Donc c'est quelque chose, et les chiffres sont stables. Et les chiffres sont d'autant plus sérieux qu'on retrouve le sondage au Doxa, que moi j'avais en tête, de mars 2024, qui montrait qu'on avait déjà 35% de Français qui voulaient le Frexit. Ce sondage qui était paru pendant les élections européennes en France. Et ce sondage Bertelsmann, à l'époque, donnait 36%, donc 35% pour Odoxa, en 36% en avril 2024. Donc les chiffres sont sérieux et c'est un chiffre historique. Il faut se réjouir qu'on ait une majorité de Français qui veulent une France libre, souveraine et hors de l'Union européenne. Et vous voyez, pour moi, ça fait écho au formidable succès des films de la bataille de Gaulle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce film qui a fait un carton contre toute attente de 5,5 millions d'entrées, qui parle des héros de la France, de la grandeur de la France, d'une France souveraine qui se bat pour son destin. Et je crois que les Français veulent sortir de cette époque minable et veulent retrouver leur histoire, retrouver le fil de leur histoire. Et il y avait aussi autre chose que je voulais dire, c'est ça parle aussi aux identitaires. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui défendent l'identité qui sont sur Ligne Droite et sur Radio Courtoisie en général. Moi aussi, je défends l'identité, mais ça dit quoi ? Ça dit qu'en fait, de toute manière, on le sait, identité et souveraineté sont les deux faces de la même médaille. Si on veut défendre l'identité en tant que Français, notre identité, ça veut dire qu'il faut être souverain et avoir réellement que le gouvernement ait le pouvoir et prendre le pouvoir. Pour défendre la souveraineté, bien sûr qu'on peut la défendre sans rien, mais il faut être un peuple avec une identité, sinon ça n'a pas de sens. Donc ça montre que aux identitaires, à tous les identitaires, ceux qui défendent prioritairement l'identité, que en fait, on a tout intérêt à s'allier entre identitaires et souverainistes, que nos intérêts sont les mêmes, et surtout qu'il y a une chance puissante de pouvoir faire le Frexit, parce que quand un vote est majoritaire, vous pouvez absolument, il y a un moment donné où vous pouvez forcément gagner le pouvoir, bien que la caste fera tout pour nous en empêcher. Et cette majorité, il faut bien voir, c'est le dernier point, c'est qu'elle est immense, d'autant plus que le système médiatique, en fait, invisibilise complètement toutes les notions de souveraineté. On ne parle jamais de souveraineté nationale, de sortie de l'Union européenne. C'est moqué, c'est invisibilisé sur les médias grand public. Et deuxièmement, les souverainistes ne sont pratiquement jamais invités sur les grands plateaux de télé pour défendre la sortie de l'Union européenne. Et pourtant, les Français sont majoritaires. Donc, ça montre qu'il se passe des événements souterrains, des ébranlements absolument gigantesques, et ça surgit comme un tremblement de terre. Et pour le comparer à autre chose, ça, je le comparerais, par exemple, au vote à la Macronie, à son effondrement soudain. Vous voyez, la classe des retraités, qui a soutenu la classe des retraités, hein, je dis bien le groupe, pas les retraités, pas chaque retraité différemment. La classe des retraités qui a soutenu majoritairement les gouvernements Macron depuis 10 ans, d'un coup est passée chez Marine Le Pen. À 55% au deuxième tour contre 45% pour Édouard Philippe, il voterait Marine Le Pen. C'est un tremblement de terre. On voit qu'on a plein de tremblements de terre en France en ce moment et que ça nous laisse prévoir qu'un nouveau monde est possible et qu'un nouveau monde adviendra.
Alors, ce nouveau monde, en plus, est toujours en regardant donc sur le site YouPinions, EUPINIONS.eu, les différents sondages, il est remarquablement cohérent. C'est-à-dire, les Français, par exemple, ne veulent pas d'élargissement de l'espace européen à plus de pays. Les Français, ou plutôt, c'est pas qu'ils n'en veulent pas, c'est qu'ils en veulent de moins en moins. Ils veulent de moins en moins une politique de défense commune. Ils veulent de moins en moins que l'Ukraine, spécifiquement, adhère à l'Union européenne. En fait, c'est remarquable, et vous l'avez dit, mais répétons-le. Donc, ce site donc est opéré par des gens qui sont plutôt pour l'Europe, mais il est honnête. Et donc, on a une espèce de photographie de l'opinion française et que je trouve très intéressante, c'est-à-dire tout se dégrade continuellement depuis 2022. C'est-à-dire le début du deuxième mandat du président le plus européiste qu'on ait jamais eu en France coïncide avec en fait une défiance, un rejet, vraiment un dégoût même de l'Union européenne marqué sur tous les marqueurs de ce qui est censé être cette Union européenne qui nous protège. Eh bien non, en fait, les Français n'y croient pas, qui serait nécessaire, les Français n'en veulent pas, qui assurerait notre prospérité, les Français ont fini par faire les calculs, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Donc, on a l'impression qu'il y a une espèce de basculement historique, mais vous avez raison de le souligner, ça n'apparaît pas du tout, en fait, dans les discours officiels d'aucun parti, en fait.
Donc, alors, sauf les partis souverainistes, mais les grands partis, entre guillemets, qui sont à l'Assemblée nationale, ça ne transparaît pas, mais vous avez remarqué que, et vous avez parlé de plein de chiffres importants de ce sondage, en fait, les grands médias n'en parlent jamais. On vous parle d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais on vous parle jamais, il n'y a jamais de débat, en fait, et on ne demande jamais l'opinion des Français. En fait, les Français sont complètement contre. Plus d'approfondissement de l'Union européenne, c'est-à-dire aller vers une Union européenne fédérale qui prendrait la main sur la défense, on n'en parle jamais, les Français, on en parle, pardon, mais toujours en bien au niveau des médias, c'est plutôt une bonne chose, c'est vers ça qu'il faut aller. Et en fait, les Français pensent le contraire. Donc on voit le schisme immense entre une espèce de toute petite caste politique et médiatique qui tient le haut du pavé, et puis les Français qui voient les choses complètement différemment. Mais c'est normal parce que l'Union européenne, c'est l'absurdistan. Et là, les Français ont commencé à le comprendre, mesure par mesure, et ça percole. Vous voyez, sur le Mercosur, qui revient à tuer les petits éleveurs français qui font de la viande de bonne qualité pour aller importer de la viande de ferme usine brésilienne où les animaux sont maltraités, où les animaux sont traités aux antibiotiques massivement, aux hormones, eh bien, c'est évidemment un absurdistan. Mais à la fin, les mesures absurdes que prend l'Union européenne, les Français les rejettent complètement. Et ça leur fait rejeter. Moi, j'avais remarqué au niveau anecdotique que les gens me disaient « Non, moi, j'étais pour l'Union européenne, mais là, le Mercosur, c'est pas possible. C'est clairement contre l'avis de la France, contre l'intérêt des Français, des agriculteurs. On ne peut pas accepter ça. » Mais c'est aussi, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le fait, comme vous disiez, les Français ont fait leurs calculs. Les prix du gaz qui ont explosé parce qu'il y a un blocus imposé par l'Union européenne avec la Russie, d'ailleurs auquel participe le président Macron. Mais tous les pays de l'Union européenne sont forcés de ne pas acheter de gaz russe, ou le minimum. Rendez-vous compte, on a un gaz, le prix de marché du gaz sur le marché européen, c'est 8,5 fois le prix de marché aux États-Unis aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est forcément la ruine de l'industrie européenne, d'autant plus qu'on a des prix de l'électricité qui ont doublé en France à cause du marché européen de l'électricité, des énergies renouvelables qui coûtent très cher à cause des réseaux électriques qu'il faut renforcer. Et on se retrouve avec une électricité qui vaut 20 centimes d'euros par kilowattheure pour les Français, alors qu'elle est produite à 6 et qu'elle était vendue à 10 et qu'elle devrait être vendue à 10 centimes. Donc tout ça, c'est en train de ruiner les Français, c'est en train de ruiner les ménages. Et les Français n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus. Et d'ailleurs, même les piliers de l'Union européenne sont en train de s'effondrer. Les piliers fondateurs, entre guillemets. On nous disait, c'est leur slogan, l'Union européenne, c'est la paix. On voit bien que l'Union européenne, c'est une politique totalement belliciste face à la Russie dans la guerre en Ukraine, au lieu d'essayer de faire cette paix et de négocier la paix sur le continent européen qui nous est nécessaire. L'Union européenne, c'est la force, nous disait-il. Ensemble, on est plus fort. Mais l'accord de libre-échange qui a été signé entre Ursula von der Leyen et Trump sur les accords de libre-échange Europe-États-Unis, on a vu qu'on a eu des droits de douane pour exporter aux États-Unis qui sont à 15% contre un pays tout seul comme le Royaume-Uni qui a eu 10%. Donc on s'est fait totalement humilier. On donne 0% de droits de douane aux importations américaines et on paye 15% contre 10% au Royaume-Uni. Donc l'Union européenne, c'est la force, c'est un mensonge. Tous les mensonges s'effondrent et en plus l'Union européenne, on le sait, c'est la censure, la fin de la liberté d'expression, les directives DSA qui s'imposent aux médias avec les associations qu'on connaît bien qui imposent des choses aux médias, qui s'imposent aux réseaux sociaux et bien entendu l'interdiction des réseaux sociaux qui se fait pour les enfants mais qui se fait par l'identité numérique, c'est un projet de l'Union européenne. Donc tous ces mécanismes de censure et de fin de liberté d'expression, c'est antinomique avec la France. La devise de la France, c'est liberté d'abord, égalité, fraternité. D'abord, c'est la liberté. Donc, on comprend que l'Union européenne est détestable et que les Français la rejettent complètement.
Alors, les Français la rejettent et on voit que nombreux sont les candidats à l'élection présidentielle qui se rendent compte que les traités de l'Union européenne, surtout tels qu'ils sont interprétés en France, qui tient absolument à être un bon élève de cette construction européenne sans en retirer aucun profit, et qui même, au contraire, met un point d'honneur à chaque fois choisir la position la plus européenne, surtout si elle est la plus anti-française, les Français commencent à en avoir assez, et Gabriel Attal parle de réforme de la Constitution, Marine Le Pen parle de la réforme de la Constitution, Jean-Luc Mélenchon en parlait depuis longtemps, Bruno Retailleau s'y met lui-même, c'est-à-dire chacun voit que la manière dont les lois sont faites en France est incompatible avec l'Union européenne et qu'il faut que la Constitution permette en fait de donner aux législateurs du souffle pour éviter que le pouvoir judiciaire n'explique avec tel ou tel juge administratif que la loi votée étant incompatible avec telle ou telle norme européenne, et ben tant pis si elle est votée en France, on la rejette, et avec une constitution française qui en fait finit par ne plus du tout être la norme suprême puisque elle est supplantée systématiquement par les règlements et les directives européennes, donc ils n'ont même plus besoin d'être des lois, avec d'ailleurs l'Union européenne qui a expliqué qu'elle allait de plus en plus gouverner justement par règlement et directive. Donc, que pensez-vous de la manière dont Bruno Retailleau explique à la suite des autres que le véritable souverain en France, c'est le peuple, et donc c'est inscrit d'ailleurs dans l'article 1er de la Constitution, et qu'il s'agit de redonner cette souveraineté au peuple?
Alors, si le véritable souverain, c'est le peuple, dans ce cas-là, quand il élit un gouvernement, ce gouvernement peut tout faire. Donc, il n'y a pas d'Union européenne qui lui impose quoi que ce soit derrière. Pour que le souverain soit le peuple, il faut qu'il y ait une souveraineté nationale totale. Ça, c'est la première chose. Mais vous signalez un problème très important, mais qui se décompose en deux parties, je pense. Et ça, c'est important de le décomposer en deux parties. Il y a le fait qu'il y a le gouvernement des juges, c'est-à-dire que les juges du Conseil constitutionnel se permettent de censurer des textes de loi sur l'immigration, des textes sur le narcotrafic, qui en plus sont votés par l'Assemblée nationale, mais qui en plus sont la volonté populaire, la volonté de tous les Français. Donc ça pose un problème majeur, c'est le gouvernement des juges. Il y a une réforme pour le Conseil constitutionnel, que la Cour suprême redevienne en fait le peuple français, et donc que le gouvernement français, les législateurs, puissent diriger le pays. Vous voyez bien que le Conseil constitutionnel, on arrive à de telles absurdités, qu'il dit, s'il y a un référendum sur l'immigration, bah, nous l'interdirons. Au nom de l'article 11 et d'une interprétation de l'article 11. C'est insupportable. C'est aux Français de décider des sujets derrière. Et on le sait très bien que l'article 11 avait été choisi, le référendum, pour changer la Constitution avait été choisi par le général de Gaulle, et ça avait été parfaitement accepté pour faire qu'en France, l'élection présidentielle se passe directement par le suffrage universel, par le vote des Français en 1962. Donc le Conseil constitutionnel a pris du pouvoir, le Conseil d'État aussi, les juges aussi, et il y a toute une façon fondamentale de reprendre le pouvoir sur les juges. Ça, c'est le premier point. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Union européenne. Ça, c'est un point important sur les juges français. La deuxième chose, c'est reprendre le pouvoir sur l'Union européenne. Mais là, Retailleau, Attal, etc., mentent. Ils se raccrochent aux branches parce qu'ils voient effectivement les résultats des sondages qui montrent que les Français veulent redevenir souverains et veulent cesser d'obéir à toutes les lois qu'on leur impose de l'extérieur et de l'Union européenne notamment. Là où ça pose un problème majeur, vous savez, Richard de Sèze, et où c'est ingérable, c'est le fait que de toute manière, appartenir à l'Union européenne, c'est écrit dans la Constitution, ça signifie, et le Conseil constitutionnel le dit, et il a raison, c'est, en fait, il a raison pour une fois, c'est respecter les traités européens, le droit européen. C'est respecter le droit, c'est-à-dire ce droit s'applique. Et si le gouvernement français n'est pas d'accord, c'est le Cour de justice de l'Union européenne qui l'applique et c'est le Cour de justice de l'Union européenne qui l'impose à la France de toute manière, à partir de ce moment-là. Et le Conseil constitutionnel se plie parce qu'appartenir à l'Union européenne, c'est respecter le droit européen. Deuxième chose, le traité de Lisbonne, mais ça vient d'avant, mais le traité de Lisbonne écrit noir sur blanc que le droit européen est supérieur au droit français. Et c'est un traité qu'a signé la France. Donc soit on déchire ce traité et on sort de l'Union européenne, soit on le renégocie, mais c'est impossible, parce que renégocier, ça veut dire que les 27 pays doivent être d'accord pour renégocier un traité et les mêmes opinions en même temps. Vous voyez bien que c'est ingérable, il faut l'unanimité, soit il faut sortir de l'Union européenne. Tout le reste, c'est de la gesticulation. Le droit européen, malheureusement, tant que l'Union européenne existera, sera supérieur au droit français. Et c'est pour ça que je milite depuis plus de 10 ans pour en sortir, parce que du coup, le souverain, c'est ni le gouvernement, ni le peuple français, c'est à la fin la Commission européenne.
Alors, vous avez évidemment raison sur le fait qu'on est complètement en prison avec l'Union européenne et qu'il y a un carcan. Mais pour revenir à ma question, ne pensez-vous pas que cet appétit de réforme constitutionnelle qui permettrait quand même de faire plusieurs choses, et notamment qui permettrait d'avoir des lois plus intéressantes et de profiter d'un espace en fait que l'Union européenne est capable d'accorder à tel ou tel, et de, surtout de nous donner à nous-mêmes de l'air, ne pensez-vous pas qu'il y a là une espèce d'aspiration qui va de LFI jusqu'à Bruno Retailleau et même Marine Le Pen à changer le pays vraiment dans sa loi fondamentale? Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est à rapporter justement à ce goût de Frexit des Français? C'est-à-dire, en fait, peu à peu, même les élites et la base, le pays légal et le pays réel, sont en train de se rejoindre dans un désir de liberté, en fait.
Alors, pour moi, il n'y a pas d'élite en France aujourd'hui politique. C'est une caste minable qui est en train de ruiner la France. Le terme élite,
c'est une autre manière de les appeler.
Il faut des élites, ça c'est fondamental dans un pays, effectivement. Mais là, on n'a plus d'élite dans le pays. Et c'est tout le problème des Français. Après, je pense qu'ils ne suivent que le sentiment des Français. Ils ne font pas de politique, en fait. Ils font de la politique marketing. Ils sentent que les Français veulent retrouver le pouvoir. Ils sentent que... Et donc... Il commence à dire des choses sur le Conseil constitutionnel, qui pourtant depuis très 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 longtemps a pris beaucoup trop de pouvoir, ainsi que le Conseil d'État. On a bien vu que le Conseil d'État retoque des lois qui sont parfaitement constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel, Conseil d'État, maintenant c'est le bloc de constitutionnalité qui compte, c'est-à-dire des phrases qui n'étaient pas censées être constitutionnelles, pas le corps du texte, mais la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'on peut tordre et interpréter dans tous les sens, comme de dire la fraternité, vous rappelez, avec cette affaire de Cédric Herrou qui accueillait illégalement des migrants qui étaient eux-mêmes illégalement sur le territoire. Il dit d'accord, il viole la loi, mais c'est pas grave parce que c'est un devoir de fraternité, donc on peut pas le punir. Voilà. Donc on a un gouvernement des juges qui est insupportable, qui se place en écran entre le gouvernement, les Français et le pouvoir. Et donc ça, c'est une nécessité absolue. Mais l'écran le plus puissant, c'est l'écran de l'Union européenne, effectivement, qui impose son droit directement par les règlements ou indirectement par les directives, mais qui sont elles aussi obligatoires. Elles aussi obligatoires, quand les directives ne sont pas appliquées en France, c'est le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel qui impose de les appliquer. au gouvernement. Donc il faut pas se leurrer. Si on veut reprendre le contrôle de nos lois, si on veut par exemple remettre des postes frontières, quoi, tout simplement, remettre des gardiens aux postes frontières de la France pour pouvoir arrêter les flux d'immigration. Si vous avez personne aux postes frontières, comme c'est aujourd'hui le cas en France et dans toute l'Europe, et comme c'est imposé par Schengen, le traité de Schengen, vous ne pouvez pas arrêter les flux d'immigration. Si vous voulez le faire, il faut sortir de l'Union européenne et être complètement libre de gouverner. Si vous voulez arrêter le regroupement familial, vous voyez, un thème important. Un des thèmes du problème, c'est un tiers à peu près de l'immigration qui vient comme ça. Eh bien, vous ne pouvez pas le faire en France parce qu'il y a une directive regroupement familial qui s'impose. Et donc, vous pouvez voter la loi que vous voulez. Elle sera anticonstitutionnelle et elle sera impossible à appliquer. Donc, si vous voulez arrêter les flux d'immigration, faire tout le droit nécessaire pour l'arrêter, il faut sortir de l'Union européenne. Donc, je pense qu'ils mentent par omission en faisant croire qu'ils pourraient reprendre le pouvoir. Ils peuvent reprendre qu'une toute petite partie du pouvoir, ces gens-là. Mais on a l'habitude hein, de leurs fausses promesses et du fait que le droit, c'est quelque chose de compliqué. Ils jouent sur le fait que les Français ne comprennent pas toutes ces notions de droit qui sont complexes, quoi.
Alors, à défaut de comprendre ces notions de droit complexes, mais une fois de plus, hein, le droit, c'est d'abord un consensus. C'est-à-dire, on nous présente ça comme une espèce de totem adamantin, alors que pas du tout. Voilà, il suffit de changer d'interprétation et on change la manière dont la vie se déroule avec les mêmes lois. Les Français, donc, c'était le début de notre discussion, expriment, en tout cas dans les sondages YouPinions, une volonté de quitter l'Union européenne. C'est un thème qui n'existe pas dans la campagne présidentielle. C'est un thème que les mouvements souverainistes, donc vous en êtes un, Philippot, Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, d'autres peut-être, sont prêts à mettre en avant cette thématique. Nicolas Dupont-Aignan a l'air d'être le mieux placé pour réunir les 500 signatures qui permettent d'avoir un candidat et donc de participer à la course officielle. C'est-à-dire là, pour le moment, il y a les déclarations qu'on peut faire, il y a les entretiens qu'on peut donner, il y a aussi le temps de parole officiel et donc la manière dont le MEDEF, par exemple, se sentirait obligé d'inviter un candidat souverainiste lorsqu'il organise le prochain éliminatoire des candidats au service du capital. À votre avis, est-ce que cette année, on va avoir un candidat souverainiste sur la ligne de départ ?
Ouais, vous posez bien la question, parce qu'en fait, la politique s'est faite de réalité. Et donc, si on veut avoir un candidat souverainiste sur la ligne de départ, il faut avoir les parrainages. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas vos 500 parrainages, malheureusement, et on peut le regretter, parce que c'est devenu une barrière à l'entrée très complexe, vous ne pouvez pas vous présenter à l'élection présidentielle. Il y a deux personnes qui peuvent les avoir dans le camp souverainiste. C'est Philippe de Villiers, qui a dit ardemment qu'il est pour le Frexit depuis plus d'un an, et c'est devenu très clair, ou Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Philippe de Villiers, donc on ne sait pas s'il se présentera, mais en tout cas, il n'y a que ces deux personnages-là qui peuvent avoir leur parrainage et être candidats à l'élection présidentielle. Juste, vous regardez, Nicolas Dupont-Aignan est le seul testé, d'ailleurs, pour l'élection présidentielle des candidats souverainistes, ce qui est, on peut le regretter, hein, on est dans une fausse démocratie, les gens ne sont pas testés dans les sondages, même les candidats officiels, bon, c'est comme ça. En tout cas, il est testé déjà à 3%, alors qu'il n'a pas de médias et qu'il n'y a pas d'union des souverainistes derrière lui. Donc imaginez, et c'est toute la question, et vous avez encore une fois raison, s'il y a une union des souverainistes, quand il y aura une union des souverainistes derrière notre candidat, on passe de 3 à 5% au minimum. Et là, le MEDEF est obligé de vous inviter. Là, les médias grand public doivent vous inviter. Ils ne peuvent pas dire « j'invite Marine Tondelier qui est à 3% et j'invite pas le candidat souverainiste qui est à 5%. J'invite Fabien Roussel à 3%, j'invite pas le candidat souverainiste à 5%. » Et derrière, vous pouvez même passer devant Bruno Retailleau qui est extrêmement faible, qui est à 7 ou 8% dans les sondages, le candidat LR. Donc, vous participez, et là, ça redonne de l'espoir aux souverainistes, vous participez au grand débat dans les médias publics, les Français entendent nos propositions, et là, vous rentrez dans un cercle vertueux extrêmement puissant, et je pense qu'une union des souverainistes fera un carton à l'élection présidentielle et législative. Voilà, donc on sera tous réunis à Arras, d'ailleurs, le 12 septembre, et pour beaucoup réunis à la fête de la liberté le 19 septembre de Nicolas Dupont-Aignan. Arras, c'est le rassemblement, les assises de la souveraineté organisé par les patriotes, eh bien, c'est le moment de discuter dans cette grande réunion publique, de parler ensemble pour aller au-delà de la réunion, puisqu'on s'est réunis au MPC avec Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Dupont-Aignan une réunion publique du MPC le 14 février. On se réunit le 12 septembre avec les Patriotes. On se réunit chez Dupont-Aignan. Moi, je parlerai avec Florian Philippot de Frexit, d'ailleurs, chez Nicolas Dupont-Aignan. Maintenant, il est le moment de transformer l'essai, de faire en sorte que ce ne soit pas une union pour les réunions publiques, mais une union pour les législatives, pour les présidentielles et pour après. Ce qui est fondamental, c'est que tout le monde doit y avoir un intérêt. C'est-à-dire, on ne doit pas simplement, celui qui a les parrainages va dire « Vous vous mettez tous derrière moi et vous me soutenez. » Non, il faut aussi que les autres aient un intérêt pour que l'union soit juste et l'union tienne. Ce qui veut dire qu'il faut que chaque personne, chaque responsable souverainiste qui s'unit pour la présidentielle et législative puisse concourir à la course pour être le chef des souverainistes en 2028 qui sera désigné par les sympathisants et les militants. Il n'y a que ça qui peut fonctionner. Ça veut dire qu'il faut un parti d'union des souverainistes qui englobe les autres partis et les chacun, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, moi-même si je me présente, tous les responsables souverainistes puissent ensuite concourir à une élection et que les sympathisants et militants souverainistes décident. C'est comme ça qu'on peut faire l'union, c'est comme ça que tout le monde y aura intérêt, c'est comme ça que la France avancera et que les mouvements souverainistes avanceront dans le cœur des Français.
Eh bien, mille merci Philippe Murer, et évidemment, à très bientôt sur Radio Courtoisie pour voir comment avance le souverainisme et comment avancent nos idées.
Merci beaucoup.